Pas d'ennemi en vue, la caméra thermique ne détecte aucun mouvement suspect, aucune source de chaleur.
Ok, c'est bon alors.
La voie est libre, dégagée. Habituellement, ces soldats n'opèrent que de nuit, le plus discrètement possible. Personne n'est censé les voir.
L'ennemi ne doit en aucune manière supposer que quelqu'un les observe et quelqu'un renseigne sur leurs activités.
Leur mission, cette fois, observer un poste de commandement dans le camp adverse, sans être repéré.
Dans un premier temps, nous allons nous infiltrer jusqu'à ce qu'on appelle une zone mission. Ensuite, on ira se mettre en place plus proche du poste de commandement, de manière à pouvoir avoir des vues sur cet objectif et à pouvoir donc préciser ce renseignement, le nombre de véhicules que compose ce poste de commandement, le nombre de personnels, s'ils sont armés ou pas, quelle est leur attitude vis-à-vis de la population locale, etc., etc.
Ces hommes sont des hussards, des spécialistes du renseignement et des opérations clandestines. Leur terrain d'action, c'est derrière les lignes ennemies, dans les zones les plus sensibles. À l'approche de l'objectif, mieux vaut continuer à pied.
On se fait de plus en plus discret et on essaye d'aborder l'objectif de manière très très furtive, de manière à ce que si jamais l'objectif est tenu, eh bien, on soit en mesure de s'exfiltrer sans avoir été repéré.
L'infiltration peut durer des heures. La progression est lente. L'objectif n'est plus très loin.
Ok, ils sont là. On a des vues sur le poste de commandement. Donc apparemment, il est constitué d'un camion et de deux jeeps. Donc on va installer le poste d'observation ici.
Le poste d'observation, c'est cette cache sommaire au milieu des feuillages, invisible de l'extérieur. De là, ces hussards filment et photographient l'activité ennemie.
Je suis en train d'observer l'objectif à l'aide de ma caméra. Et je transmets le renseignement vers ma base trans, qui elle-même le retransmettra vers notre employeur. On dispose de postes radio qui font de l'évasion de fréquence, de manière à ne pas être capté par l'ennemi. Et donc c'est de la transmission de données, je ne parle pas à la radio, mais j'envoie que des textes.
Frappes aériennes, attaques terrestres, c'est maintenant à l'état-major de décider de la suite des opérations. Et s'il faut s'engager plus profondément dans des zones moins accessibles, il y a d'autres moyens.
L'intérêt de la moto, c'est qu'elle va être plus discrète et on va passer dans des terrains beaucoup plus difficiles où le VBL ne peut pas accéder. En sous-régime, dans les bois, une fois qu'on arrive sur la personne ou sur l'objectif, on ne se fait pas détecter.
Ne jamais se faire détecter, sur terre comme sur l'eau. Plongeur de combat. Patrouille en kayak, hors bord. Dans les guerres modernes, ces soldats doivent pouvoir s'adapter à tous les terrains.
Les moyens nautiques, c'est particulièrement intéressant parce qu'on peut utiliser ces moyens en infiltration, notamment par voie aquatique, dans tout ce qui est zone urbaine et périurbaine. Parce qu'en fait, on se rend compte que beaucoup d'agglomérations sont coupées par des rivières et infiltrer des gens à la palme ou en kayak, c'est très intéressant pour recueillir le renseignement sur un objectif qui est situé près de la ville.
Observer, cela veut dire aussi écouter, c'est la mission de ces soldats. À l'aide de ces antennes, ils interceptent les fréquences, les localisent pour tenter de savoir ce qui se passe en territoire ennemi. On appelle cela le renseignement tactique.
Il s'agit aussi de recueillir des informations sur l'environnement, sur la population. Ça peut être quelque chose de moins palpable comme un état d'esprit ou des intentions. Nous sommes les yeux et les oreilles du commandant de la force d'action terrestre.
Et quand les données doivent être plus précises, ces unités peuvent s'infiltrer elles aussi. Bardés d'électronique, ces hommes traquent l'ennemi à distance et tentent de repérer ses positions.
Tir de localisation sur 333.165 MHz.
C'est l'antennaire qui permet de calculer l'angle d'arrivée des ondes. Donc tout simplement de nous donner la direction dans laquelle se trouve la personne qui est en train de parler, que nous sommes en train d'écouter.
À guerre électronique, c'est un appui à la force, au même titre que l'artillerie. Donc le champ d'action de la guerre électronique, en fait, ce sont les systèmes d'information et de communication adverses. Et on agit en fait sur ces communications à des fins de renseignement.
Dans sa quête de renseignement, le commandant des forces terrestres peut aussi compter sur ses escadrilles héliportées. Rapides, autonomes, sur des centaines de kilomètres, ces appareils des gazelles Viviane permettent de s'infiltrer, de progresser loin, très loin derrière les lignes ennemies. Une progression qui se fait à 30 mètres au-dessus du sol, jamais plus haut.
On vole en très basse altitude, on pratique le vol tactique pour passer en dessous des vues de l'ennemi. Et comme on peut voir depuis le début de l'évolution, on se sert du terrain, et on se sert des compartiments de terrain pour évoluer en toute discrétion.
Et pour déjouer les radars, ils maintiennent leur cap malgré tous les obstacles. Ces équipages sont pratiquement les seuls au monde à réaliser de telles manœuvres, passer sous les lignes à haute tension. La nuit, équipés de jumelles de vision nocturne, ces pilotes rendent leur machine quasiment invisible.
Il s'agit pour nous de rester absolument dans ce qu'on appelle le clutter, le fouillis électromagnétique infrarouge, qui est le rayonnement de la Terre entre 0 et 30 mètres sol, qui est une hauteur sol où on arrive à se mêler complètement à la végétation, où les radars ont beaucoup de mal à nous détecter. Et où même les observateurs humains ont beaucoup de mal à venir nous chercher.
Ce soir encore, personne ne les aura repérés malgré un long survol en territoire ennemi. La discrétion, la furtivité, voilà les armes de ces soldats. Le renseignement, une guerre que l'on ne voit jamais.